Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. La rubrique suivante, magazine culturel et apprendre l'indonésien. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Chers auditeurs de La Voix de l'Indonésie, bonsoir. Nous présentons les journaux d'aujourd'hui. La ministre Susi Pujiastuti continue de réformer le secteur maritime. Adaro fournit du charbon au centre électrique de Thaïlande. Le gouvernement invite les compagnies aériennes à offrir des billets aux tarifs spéciaux. L'acte de la lutte pour le Palestine se conforme à la constitution indonésienne. La ministre Susi Pujiastuti organise un spectacle intitulé « La culture maritime 2017 ». Et voici le journal complet. À la fin de la troisième année du gouvernement de Joko Widodo et Yusuf Kalla, la ministre de la Pêche et des Maritimes, Susi Pujiastuti, reste déterminé à améliorer et revitaliser la gestion du secteur de la pêche et de la mer. La ministre Susi Pujiastuti à Jakarta, dimanche le 17 décembre, a déclaré que le secteur maritime reste important pour le futur. Comme rapporté par l'Agence nationale d'information de la radio, afin de revitaliser le secteur maritime, la ministre Susi a commencé avec trois piliers. Le premier est la souveraineté. Sur les piliers souverains, la ministre Susi va lutter contre les pratiques de pêche illégales, non intégrées à l'institution de gestion de la pêche et non réglementées par la réglementation officielle. La lutte contre cette pratique était entre autres de noyer les navires des voleurs de poissons pour provoquer un effet dissuasif. Le deuxième pilier est la durabilité. Les politiques visant à maintenir la durabilité sont l'interdiction de capturer des poissons avec tantrang, ou le filet de poissons massifs, et l'interdiction de capturer des bébés homards et crabes. Le troisième pilier est la prospérité. La ministre Susi veut que les pêcheurs qui sont des propriétaires légitimes de la mer indonésienne puissent jouir de la prospérité. La compagnie minière indonésienne Adaro Energy coopère avec la Thaïlande pour fournir du charbon afin de répondre aux besoins énergétiques du pays. La coopération commerciale a été menée par le président directeur de Adaro Energy, Girabaldi Tohir, avec la présence de l'ambassadeur de la République indonésie en Thaïlande, Ahmad Rusdi, à Bangkok dimanche le 17 décembre. Comme cité par Republika Online, l'affaire devient stratégique parce que la Thaïlande est l'un des pays qui importe du charbon de Adaro. Le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, encourage toutes les compagnies aériennes à offrir des tarifs spéciaux pour augmenter le retour des touristes étrangers après l'éruption du mont Agung à Karangasem, Bali. Comme rapporté par Antara, le ministre Budi Karya Sumadi à Yogyakarta dimanche le 17 décembre a déclaré que le tarif spécial est réalisé grâce à des programmes qui attirent les touristes étrangers à diverses destinations touristiques en Indonésie telles que Jakarta, Yogyakarta, Bandung et Bali. Budi Karya Sumadi a reconnu que l'éruption du Mont Agung a influencé les visites des touristes étrangers, notamment à Bali. Le président de l'Assemblée consultative du peuple de l'Indonésie, Zulkifli Hasan, considère que l'acte de solidarité pour la lutte de la nation palestinienne fait partie de la pratique des valeurs de Pancasila et du mandat de la Constitution indonésienne. La Constitution insiste sur le fait que la colonisation à travers le monde doit être abolie parce que cela ne se conforme pas à l'humanité. Cela a été dit par Zulkifli Hasan lorsqu'il assistait l'acte de la lutte pour la Palestine au Monument National Jakarta dimanche le 17 décembre. Selon lui, la solidarité humanitaire vers la Palestine dépasse les frontières ethniques et religieuses. Comme rapporté par Maître Tuvinius, l'action de solidarité contre les Palestiniens est une réponse de la revendication unilatérale du président américain Donald Trump, qui a associé Jérusalem comme la capitale d'Israël. En plus du président de l'Assemblée, il y avait un certain nombre de personnalités qui étaient présentes, telles que le président du Conseil des ulémas indonésiens et le ministre des Religions. Le ministère indonésien des Affaires maritimes et de la pêche a tenu la fête de Budaya Bahari 2017 ou la culture maritime 2017 au Monument National Jakarta dimanche soir le 17 décembre. La performance culturelle présente des marionnettes d'ombre avec des histoires de mer et des pêcheries appartenant à l'Indonésie. Le ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Susi Pujiastuti, a déclaré que la fête des cultures est organisé pour que les gens connaissent la performance du ministère de la Marine et des Pêches de revitaliser, améliorer l'industrie de la pêche et des cultivateurs de producteurs de sel et les pisciculteurs. Le ministre a ajouté que cette activité vise également à inculquer l'amour du peuple envers la mer, à travers le mouvement de l'amour de la mer. Comme cité par l'agence de presse, la campagne d'amour maritime devrait continuer à être encouragée par l'approche en conformité avec la coutume. La culture est emballée sous la forme de l'art et de la créativité. La campagne Mouvement de l'amour de la mer est la forme de Nawatita du gouvernement du président Joko Widodo pour faire la mer comme l'avenir de la nation. Chers auditeurs et auditrices, voilà le journal aujourd'hui.
Chers amis, nous continuons notre émission avec le tremblement de terre à Java et la solidarité sociale. Le vendredi 15 décembre 2017, avant le minuit, un séisme de magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter s'est produit sur la côte sud de Java-Ouest, Java Central, Java-Est et territoire spécial de Yogyakarta. Quelques instants plus tard, l'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique BMKG a même annoncé l'annonce d'un éventuel tsunami. Les communautés de la côte sud de Java-Ouest, de Java-Central, de Yogyakarta et de certaines parties de Java-Est ont été paniquées par l'avertissement. Heureusement, le samedi matin, 16 décembre 2017, l'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique, BMKG, a annoncé que l'alerte précoce au tsunami était terminée. Bien que le tsunami n'ait pas eu lieu, le tremblement de terre qui s'est produit sur la côte sud de Java a causé des dommages aux maisons et aux bâtiments et a tué des personnes. Selon les données provisoires du dimanche 17 décembre 2017, l'impact du tremblement de terre a fait 4 morts, 11 blessés graves et 25 blessés légers. Plus de 2900 maisons ont été endommagées à Java occidental, Java central et au territoire spécial de Yogyakarta. En outre, le séisme a également endommagé les bâtiments scolaires, les lieux de culte, les immeubles du bureau et les hôpitaux. Le gouvernement, à travers le gouvernement local, l'Agence nationale de gestion des catastrophes, BNPB, le ministère des Affaires sociales et les autorités locales, se sont coordonnés pour surmonter l'impact de ce tremblement de terre. L'assistance logistique de BNPB est fournie aux zones qui ont établi des situations d'intervention d'urgence. Néanmoins, un coup de main du peuple indonésien en tant que forme de solidarité sociale est nécessaire. L'Indonésie est une nation connue pour être préoccupée par la souffrance des autres. Le peuple et le gouvernement de l'Indonésie, par exemple, ont aidé les réfugiés Rohingyas en envoyant un soutien logistique au Bangladesh. De même, en cas de désastre, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, comme la guerre partout dans le monde, les Indonésiens n'hésitent pas à apporter leur aide. Par exemple, en Palestine, dans la zone de conflit, l'Indonésie a même construit des hôpitaux en plus de fournir des produits de première nécessité. Maintenant, avec l'apparition de tremblements de terre à Java West, Java Central et Yogyakarta, il est naturel pour le peuple d'Indonésie d'aider les parents du pays qui souffrent après le tremblement de terre. C'est le moment de montrer un sentiment de préoccupation sociale et de solidarité parmi les camarades indonésiens. Comme le dit la diction « Charity begins at home », soit « La charité commence à la maison ». Cher ami, c'était le commentaire.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs du TIS, avec moi Yubi Suryanto, on va écouter maintenant l'histoire d'aujourd'hui, de l'édition le 18 décembre 2016. On va commencer le 18 décembre 1958, premier satellite de télécommunication. Les États-Unis annoncent la mise sur orbite du premier satellite de communication expérimental, baptisé SCORE, lancé en place dans l'espace par une fusée Atlas pour une mission de 34 jours. Il retransmettra cette message sur Terre avec succès. Dans une allocution du président Eisenhower, les premières missions de télévision américaine seront diffusées sur les écrans européens via les satellites à partir de 1962. On continue le 18 décembre 1994, découverte de la grotte Chauvet. Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel et Christian Hiller découvrent par hasard une grotte préhistorique sous le cirque d'Estre en Ardèche. La grotte est ornée de peintures de paléolithique enjonchées d'ossements animaliers. Après avoir été authentifiée et visitée par le ministre de la Culture, elle est fermée au public et équipée de systèmes permettant sa préservation. Une exposition permanente lui est consacrée dans le village voisin Vallon-Pont d'Arc. On continue le 18 décembre 2000, la journée internationale des migrants a été célébrée. « Journée des migrants internationaux établie par l'Assemblée générale de l'ONU le 4 décembre 2000. Le dernier fond de cette journée concile le nombre important et croissant des migrants dans le monde. Le 18 décembre 1990, l'Assemblée générale a adopté la Convention internationale de la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Journée internationale des migrants célébrée dans de nombreux pays, les gouvernements et les organisations non gouvernementales à travers la diffusion de l'information sur les droits de l'homme et des libertés politiques fondamentaux des migrants. Cette journée est aussi un moment de partage d'expériences liées à la question de la protection des migrants. On termine le 18 décembre 1973, la Banque islamique de développement a été créée. La Banque islamique de développement, ou BID, est une institution de financement du développement multilatéral située à Jeddah, en Arabie Saoudite. La société a été fondée en 1973 par le ministre des Finances de l'Organisation de la coopération islamique, ou OCI, avec le soutien du roi d'Arabie Saoudite à l'époque. La banque a commencé ses activités le 20 octobre 1975, il y a 56 État membre des actionnaires. Le 22 mai 2013, la BID a acquis un avantage triple du capital autorisé et peut servir les musulmans, les membres des pays et les non-membres. C'est celui d'Auditis, voici l'histoire de celui ce soir.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la mise au point et en peu titre, l'Indonésie et le Chili élimine les obstacles au commerce bilatéral. Les gouvernements d'Indonésie et de Chili ont officiellement signé l'accord de commerce Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement, ICCEPA. L'accord a été signé par le ministre du Commerce d'Indonésie, Enggar Tias Tolukita, et le ministre du Commerce du Chili, Geraldo Munoz, dans la ville Santiago, au Chili, jeudi 14 décembre. L'accord de coopération économique globale élimine les droits sur les produits nationaux pour 7669 postes tarifaires, soit près de 90% des lignes tarifaires totales du Chili. Le ministre du Commerce, Enggar Tias Tolukita, à Santiago, le jeudi 14 décembre, a déclaré que l'accord constituait une étape importante dans les relations bilatérales entre les deux pays et pourrait stimuler le commerce entre l'Indonésie et le Chili. Enggar Tias Tolukita a dit que ICCEPA supprime les droits de douane à l'importation de Chili à 0% sur 7669 lignes tarifaires de Chili, ou couvre 94,5% des exportations indonésiennes vers le pays en 2016. En outre, le Chili donne également des réductions tarifaires jusqu'à 50% à 100 99 autres produits ou l'équivalent de 6,1% de la valeur des exportations de l'Indonésie au Chili l'année dernière. Du côté indonésien, le gouvernement a libéré les droits d'importation à 0% contre 9308 postes tarifaires, ce qui équivaut à 93,1% des exportations chiliennes vers l'Indonésie. En outre, l'Indonésie accorde également des réductions tarifaires jusqu'à 50% pour 590 autres produits chiliens. Le ministre du Commerce, Enggar Tiasto, a déclaré vendredi dans un communiqué que l'accord constituait un jalon dans les relations bilatérales entre les deux pays et pourrait stimuler le commerce entre l'Indonésie et le Chili. Cependant, le directeur général des négociations commerciales internationales, Iman Pambagio, a ajouté que le Chili est l'un des pays qui a le plus d'accords commerciaux dans le monde. Par conséquent, le gouvernement vise le Chili comme un lien pour les produits indonésiens à exporter vers d'autres pays d'Amérique latine. Selon Pambagio, en plus de supprimer les droits d'importation pour un certain nombre de produits, l'accord de coopération économique globale Indonésie-Chili réglemente également les règles d'origine et les procédures douanières visant à simplifier et harmoniser les procédures douanières. Au cours de la période 2012-2016, les résultats commerciaux de l'Indonésie et du Chili ont diminué 12,09%. Cependant, les échanges entre les deux pays ont de nouveau augmenté entre le premier trimestre et le troisième trimestre de 2017. La valeur commerciale entre l'Indonésie et le Chili a atteint 218,8 millions de dollars américains, soit une augmentation 27% par rapport à la même période de l'année précédente. Les produits d'exportation principaux de l'Indonésie au Chili sont entre autres les chaussures, les machines, les vêtements et les accessoires de tricot, les machines électriques, les caoutchoucs, les savons, les véhicules et l'huile animale et végétale. Les produits indonésiens bénéficiant de la réduction tarifaire significative dans l'accord de coopération économique globale Indonésie-Chili sont l'automobile, les chaussures, les meubles, les bijoux, l'huile de palme et dérivés, le papier, le textile et les produits de textile, les produits de la pêche, du café, du thé, les pneus, les biocarburants, ainsi que du matériel militaire. Chers amis, c'était la mise au point.
À la fin de la troisième année du gouvernement de Joko Widodo et Yusuf Kalla, la ministre de la Pêche et des Maritimes, Susi Pujiastuti, reste déterminée à améliorer et revitaliser la gestion du secteur de la pêche et de la mer. La ministre Susi Pujiastuti à Jakarta, dimanche le 17 décembre, a déclaré que le secteur maritime reste important pour le futur. Comme rapporté par l'Agence nationale d'information de la radio, afin de revitaliser le secteur maritime, la ministre Susi a commencé avec trois piliers. Le premier est la souveraineté. Sur les piliers souverains, la ministre Susi va lutter contre les pratiques de pêche illégales, non intégrées à l'institution de gestion de la pêche et non réglementées par la réglementation officielle. La lutte contre cette pratique était entre autres de noyer les navires des voleurs de poissons pour provoquer un effet dissuasif. Le deuxième pilier est la durabilité. Les politiques visant à maintenir la durabilité sont l'interdiction de capturer des poissons avec tantrang, ou le filet de poisson massif, et l'interdiction de capturer des bébés homards et crabes. Le troisième pilier est la prospérité. La ministre Soucy veut que les pêcheurs qui sont des propriétaires légitimes de la mer indonésienne puissent jouir de la prospérité. La compagnie minière indonésienne Adaro Energy coopère avec la Thaïlande pour fournir du charbon afin de répondre aux besoins énergétiques du pays. La coopération commerciale a été menée par le président directeur de Adaro Energy, Girabaldi Tohir, avec la présence de l'ambassadeur de la République indonésie en Thaïlande, Ahmad Rusdi, à Bangkok dimanche le 17 décembre. Comme cité par Republika Online, l'affaire devient stratégique parce que la Thaïlande est l'un des pays qui importe du charbon de Adaro. Le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, encourage toutes les compagnies aériennes à offrir des tarifs spéciaux pour augmenter le retour des touristes étrangers après l'éruption du mont Agung à Karangasem, Bali. Comme rapporté par Antara, le ministre Budi Karya Sumadi à Yogyakarta dimanche le 17 décembre a déclaré que le tarif spécial est réalisé grâce à des programmes qui attirent les touristes étrangers à diverses destinations touristiques en Indonésie, telles que Jakarta, Yogyakarta, Bandung et Bali. Budi Karya Sumadi a reconnu que l'éruption du mont Agung a influencé les visites des touristes étrangers, notamment à Bali. Le président de l'Assemblée consultative du peuple de l'Indonésie, Zulkifli Hasan, considère que l'acte de solidarité pour la lutte de la nation palestinienne fait partie de la pratique des valeurs de Pancasila et du mandat de la Constitution indonésienne. La Constitution insiste sur le fait que la colonisation à travers le monde doit être abolie parce que cela ne se conforme pas à l'humanité. Cela a été dit par Zulkifli Hasan lorsqu'il assistait l'acte de la lutte pour la Palestine au Monument National Jakarta dimanche le 17 décembre. Selon lui, la solidarité humanitaire vers la Palestine dépasse les frontières ethniques et religieuses. Comme rapporté par Maître Tuvinius, l'action de solidarité contre les Palestiniens est une réponse de la revendication unilatérale du président américain Donald Trump qui a associé Jérusalem comme la capitale d'Israël. En plus du président de l'Assemblée, il y avait un certain nombre de personnalités qui étaient présentes, telles que le président du Conseil des Ulémas indonésiens et le ministre des Religions. Le ministère indonésien des Affaires maritimes et de la pêche a tenu la fête de Budaya Bahari 2017 ou la culture maritime 2017. Au Monument National Jakarta dimanche soir, le 17 décembre. La performance culturelle présente des marionnettes d'ombre avec des histoires de mer et des pêcheries appartenant à l'Indonésie. Le ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Susi Pujiastuti, a déclaré que la fête des cultures est organisée pour que les gens connaissent la performance du ministère de la Marine et des Pêches de revitaliser, améliorer l'industrie de la pêche et de cultivateurs de producteurs de sel et les pisciculteurs. Le ministre a ajouté que cette activité vise également à inculquer l'amour du peuple envers la mer, à travers le mouvement de l'amour de la mer. Comme cité par l'agence de presse, la campagne d'amour maritime devrait continuer à être encouragée par l'approche en conformité avec la coutume. La culture est emballé sous la forme de l'art et de la créativité. La campagne Mouvement de l'amour de la mer est la forme de Nawatita du gouvernement du président Joko Widodo pour faire la mer comme l'avenir de la nation. Chers auditeurs et auditrices, voilà le journal aujourd'hui.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Et aujourd'hui, nous vous en produisons l'île Pisang, qui se trouve à Lampung. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, La Voix d'Indonésie. La province Lampung est la province la plus méridionale à l'île Sumatra. Dans cette province, il y a beaucoup de tourisme culturel ainsi que des festivals qui ont souvent lieu tout au long de l'année. Cette province a aussi le tourisme naturel qui n'est pas moins beau avec d'autres régions en Indonésie. L'un d'entre eux est l'île Pisang qui est située dans la mer au large de l'océan Indien à l'ouest de la province Lampung. L'île Pisang est une île située au milieu de l'océan Indien et est incluse dans le sous-district de l'île Pisang, en région pesisir barat, soit région de la côte ouest. Pour se rendre à l'île Pisang, il faut environ une heure du port Kuala dans la ville de Krui, côte ouest. Du village Tembakak, il faudra un temps plus court, de 15 à 20 minutes en utilisant jukung ou bateau motorisé. L'horaire des traversées vers l'île Pisang commence entre 7h et 14h pour un coût de 15 000 rupiah par personne. Si vous passez 16h, vous pouvez toujours passer à l'île Pisang en louant un bateau pour un coût d'environ 500 000 rupiah aller-retour. L'île Pisang est toujours très naturelle et non polluée. Donc, cette île est le bon endroit pour ceux d'entre vous qui veulent se détendre pour profiter de la plage qui est toujours belle et pas trop de monde. Sur cette île, vous pouvez également profiter d'une visite sous-marine très exotique. Si vous êtes chanceux, quand vous venez pendant la saison du thon, vous pouvez également voir des dauphins chassant le thon. Sur cette île, les visiteurs peuvent effectuer diverses activités de plage comme la pêche, la natation, la plongée et d'autres. Dans cette île, l'hébergement est déjà disponible sous la forme de maison familiale avec le prix de location de 350 000 rupiah par nuit ou vous pouvez également rester à la maison chez les résidents à domicile avec le prix de 100 000 rupiah par nuit. Sur cette île, il y a des stands de nourriture, des lieux de culte sous la forme de mosquées et d'autres. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. À demain.
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonjour à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique « Apprendre indonésien », un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix d'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est « Bangun jam berapa ?» ou en langue française, « Se réveiller à quelle heure ?» Tout d'abord, je vais introduire le vocabulaire et les expressions reliant au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Bangun. Bangun. En français, se réveiller. Jam berapa? Jam berapa? En français, quelle heure? Biasanya. Biasanya. En français, habituellement. Jam tujuh. Jam tujuh. En français, à 7 heures. Pagi. Pagi. En français, matin. Tidur. Tidur. En français, dormir. Tidak tentu. Tidak tentu. En français, pas nécessairement. Hari Senin. En français, lundi. Hari Jumat. Hari Jumat. En français, vendredi. Jam 12. Jam 12. En français, à 12 heures. Malam. Malam. En français, nuit. Akhir pekan. Akhir pekan. En français, weekend. Jam 2. Jam 2. En français, à 2 heures. Jam 3. Jam 3. En français, à 3 heures. Terlalu. Terlalu. En français, trop. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation et un sous-titre « Bangun jam berapa ?» ou en langue française « Se réveiller à quelle heure ?» Comme d'habitude, je vais prononcer lentement phrase par phrase deux fois. Vous pouvez répéter après moi. C'est une conversation entre Devi et Donnie au bureau. Donnie, kamu biasanya bangun jam berapa? Doni, kamu biasanya bangun jam berapa? En français, Doni, à quelle heure te réveilles-tu habituellement? Saya biasanya bangun jam 7 pagi. Saya biasanya bangun jam 7 pagi. En français, je me réveille habituellement à 7 heures du matin. Kamu tidur jam berapa? Kamu tidur jam berapa? En français, à quelle heure dormez-vous? Tidak tentu. Tidak tentu. En français, pas nécessairement. Hari Senin sampai hari Jumat, saya biasa tidur jam 12 malam. Hari Senin sampai hari Jumat, saya biasa tidur jam 12 malam. En français, du lundi au vendredi, j'ai l'habitude de dormir à 12 heures du matin. Di akhir pekan, kamu tidur jam berapa? Di akhir pekan, kamu tidur jam berapa? En français, au weekend, à quelle heure dormez-vous? Di akhir pekan, saya biasa tidur jam 2 atau jam 3 pagi. Di akhir pekan, saya biasa tidur jam 2 atau jam 3 pagi. En français, Le week-end, je dors habituellement à 2 ou 3 heures du matin. Kamu tidurnya terlalu malam. Pantas saja kamu tidak bisa bangun pagi. Kamu tidurnya terlalu malam. Pantas saja kamu tidak bisa bangun pagi. En français, vous dormez trop tard, c'est pourquoi vous ne pouvez pas vous lever le matin. Cher ami, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditeurs de La Voix de l'Indonésie, où que vous soyez. On se retrouve encore dans la rubrique Magazine Musical. Dans cette édition, je vais vous présenter des chansons de Kroncong dont le thème est « Cœur brisé » qui sont chantées par plusieurs chanteuses. Chers auditeurs, nous commençons notre édition d'aujourd'hui en écoutant la chanson de Sundari Sukocho intitulée « Alam Kenangan ». Bonne écoute. Chers auditeurs, voilà la chanson Alam Kenangan qui a été créée par Hadi Abdul Ghani et Utin Nur Hashim. Les paroles de cette chanson racontent de quelqu'un qui se souvient de son passé quand il a été abandonné par son amant. Chers auditeurs, la chanson suivante que nous allons écouter parle aussi du cœur brisé. La chanson intitulée Usaka Warap est la création de Charles Utagalung. Écoutons la chanson intitulée Usaka Warap qui est chantée par Hetikus Endang. Bonne écoute. Chers auditeurs, voilà, vous venez d'écouter la chanson Osaka Ohara par Hetiko Sendan. La chanson de Kronchon suivante, dont le thème est que brisé, intitulé Bukanya Kutakut, ou en français, Ce n'est pas que j'ai peur. Cette chanson a été précédemment popularisée par la chanteuse pop indonésienne qui s'appelle Mulan Jamila. Ensuite, cette chanson est chantée en version de Kronchon par le chanteur nommé Iin Indriani. Chers auditeurs, la dernière chanson que nous allons présenter, intitulée Kerinduan ou Désir. Comme le titre, cette chanson parle du désir d'une personne pour son amant qui ne lui donne pas de nouvelles. Bon, chers auditeurs, pour finir l'édition d'aujourd'hui, écoutons deux chansons de Kerinduan intitulées Bukanya Kutakut par Iin Indriani. Bonne écoute et à la prochaine!
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était des chansons indonésiennes. Et l'émission se termine ici. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.